the sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man.
Il est 20h passées de 4 petites minutes et tout de suite vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de la saison de Génération Sport, l'émission sportive de Radio G, votre rendez-vous sportif sur le 101.5 FM de Radio G. C'est notre deuxième émission et aujourd'hui on va recevoir notre première invitée de la saison. Je le présenterai juste après, mais avant je vais présenter ceux qui sont avec moi. Il y a des anciens donc, il y a des nouveaux aussi. Faustin est là. Salut Faustin.
Salut.
Bon week-end ?
Ouais.
Ça se passe bien.
J'ai joué un petit match de basket.
Oh, parfait. T'as gagné ?
J'ai gagné, évidemment.
Parfait. Une grosse perf pour toi ?
10 petits points, ça va.
Pas de double-double ?
Non.
Bon, sinon, je pense qu'il y en a un qui a eu un gros week-end aussi. C'est Cédric. Il y avait le Z-Event ce week-end. T'as suivi un peu ça ou pas ?
Oh, on a eu un très beau combat de catch.
Ah, t'as suivi plutôt le catch, ouais.
Non, comme tous les ans, j'ai essayé de suivre un peu de tout. Il y a eu pas mal de shows bien sympas cette année. Beaucoup plus d'animation. Un événement qui ramène encore beaucoup d'argent. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça a fait taire certaines bouches qui voyaient ça comme un flop, le flop event. Un week-end jongé du Z-Event et puis du sport, quoi.
Évidemment, toujours le sport présent. Quelqu'un est là également, ça va être bientôt un ancien, c'est sa dernière émission avec nous. Il quitte le club pour en joindre un autre, un maillot bleu, un logo bleu. C'est Max qui est avec nous.
L'EDF ?
Salut Max.
Ouais, c'est ça, je signe pour l'EDF. Dans 54 minutes, je ne fais plus partie de l'équipe.
C'est hyper triste ce que tu dis là.
Donc on va vivre chaque minute.
Ouais, mais c'est pas grave, on va récupérer de l'argent sur le transfert.
J'espère.
Si, bah j'avais un super contrat.
Il y avait une clause, ouais, il y avait une clause.
Et il y a un gros pourcentage à la revente.
Je crois qu'on va avoir un sandwich et un café.
Au maximum. Comme Griezmann, tu vas pas pouvoir faire plus de 30 minutes là-bas, par contre.
Ah, j'espère avoir un meilleur contrat quand même.
Et puis un ancien qui est avec nous, un ancien de Génération Sport. Évidemment, co-créateur, on peut le dire. Yann Ménard est avec nous. Salut Yann.
Eh ben, bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe complète. Ça c'est.
Et là,
c'est
y a,
je crois que j'ai choisi la bonne journée. Ouais.
On peut pas faire plus
on
complet.
On a l'impression d'être il y a 3 ans, il y a 4 ans.
C'est ça. Ouais, avec un nouveau.
Avec un nouveau en plus, évidemment.
Non, c'est bien. Et puis, alors il y a deux choses. C'est ce que je trouve bien, c'est qu'on voit qu'il y a des jeunes qui viennent dans l'équipe. Donc au moins le futur est assuré. Donc ça c'est une bonne chose pour moi, comme tu le disais, étant à la création avec Cédric de l'émission sportive.
Oui.
Donc ça, je trouve que c'est très très bien. Ouais. Moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est de voir qu'il va y avoir un duo qui va se séparer. Voilà, Alex sans Max, je me demande qu'est-ce que ça va devenir. Est-ce qu'on imagine.
Toujours Alex, hein, à moins que tu changes de prénom.
Est-ce qu'on imagine Tintin sans Milou, Laurel sans Hardy.
Qui est Tintin, qui est Milou dans le
ça, ouais, okay, choisir.
On verra.
Okay. Non, parce que faire Dupont et Dupont au moins.
Voilà, pas de débat.
Bah, disons, c'est vrai que le 1-2, je vais jongler un peu tout seul, mais il y aura quelqu'un pour m'épauler, ce sera Faustin. Ce sera plus des passes de basket cette fois-ci. Tu nous parleras des clubs du Maine-et-Loire et puis de tout ce qui se passe en NBA. On parlera aussi donc de l'Eurobasket, dans les actus. Yann, donc t'es là pour nous présenter ton projet. Un projet, on peut le dire, solidaire.
Projet solidaire, un petit peu écologique aussi. Projet aussi sportif, n'en déplaise à certains. et puis projet familial en même temps.
Bien sûr. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler évidemment longuement pendant cette émission. On va parler de l'actu tout d'abord, et puis voilà, après on parlera de ce projet de Yann. Par les actus, on commence évidemment par le local. Vous en avez l'habitude. On va commencer par Angers Scoimbal qui a fait sa rentrée dans la nouvelle salle du Hara ce vendredi face à Cournon. Pour ce premier match à domicile de la saison, les Angevins ont dominé facilement leurs adversaires Auvergnats 37-31. Et après deux matchs de National 1 Elite, le SCO est leader et démarre parfaitement son objectif de remonter en Pro League. L'autre SCO a démarré, on le sait, sous de moins bonnes auspices la saison. Donc vous le savez, les hommes de Gérald Baticle ont connu leur pire démarrage depuis la remontée en Ligue 1. Mais cette série négative s'est stoppée net ce dimanche avec la victoire angevine contre Montpellier 2-1. Unou et Bouffal ont répondu à Nordin pour permettre aux Noirs et Blancs de l'emporter pour la première fois dans l'exercice 2022-2023. Alors pas d'évolution au classement, toujours à la 19e place, mais à égalité avec la 18e et la 17e. Je vais me tourner avec vers l'ensemble de la table. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette victoire? Est-ce que ça redonne espoir ou voilà, c'est juste une victoire un peu obtenue à l'arraché?
Ah bah si quelqu'un a de l'espoir maintenant, qu'il le dise. Hein. Parce qu'un peu d'espoir dans ce club, franchement, ça ferait pas de mal.
Faut voir si c'est pas la victoire qui va cacher un peu tout le reste, mais c'est vrai que d'aller prendre 3 points à Montpellier, c'est jamais évident.
Ouais, non, là c'est pas
mais,
mal.
Mais va falloir confirmer, je pense, derrière. Et au vu du calendrier, un petit peu peur. Hein.
Et ça a aussi un peu sauvé le poste de Gérard Baticle. Enfin, en tout cas, pour jusqu'à les prochaines mauvaises performances.
Le problème, c'est qu'on n'a jamais su réellement s'il était en danger.
Tu penses qu'il reste même après une défaite contre Montpellier? Après 2 points
Oui, je
sais pas trop. Mais le problème, c'est que comme on sait qu'il n'y a pas forcément d'argent au SCO, une rupture de contrat supplémentaire, je sais pas si ça mettrait pas un peu dans le rouge, mais c'est clair qu'en tout cas, ça le sauve peut-être au moins du côté des supporters. Je pense que là, s'il y avait eu une défaite consécutive, ouais, là, je pense que sa tête, elle serait réellement au bout d'un pic, quoi.
Bah, s'il doit sauter, il sautera avant la Coupe du Monde, je pense. Je pense que beaucoup de clubs vont, s'ils doivent limoger des coachs, ils vont les limoger avant la Coupe du Monde. Ils vont se laisser un bon mois pour repenser, retrouver un entraîneur. Donc,
sachant que je crois qu'il y a peut-être le mercato qui a avancé cette année.
Il y a peut-être ça aussi.
Donc, voilà, tu vois, ça peut jouer à ce moment-là, mais ouais, en tout cas, il a sauvé, je pense, oui, au moins pour une journée, quoi.
Même si apparemment la victoire, elle est entachée de quelques erreurs d'arbitrage. Donc,
j'ai envie de dire, ça devient habituel. Hein. Tous les week-ends, les arbitres.
On est qu'à 100 cartons rouges en France.
Ouais. Instant.
La Ligue 2 se surpasse.
Hein. On a rupture de cartons jaunes, je crois, c'est pour ça.
Ouais, c'est dommage.
Ça vient d'Ukraine aussi, donc il y a. Ah. La production, tu vois, elle est ralentie. D'accord.
On parlera de l'Europe de l'Est tout à l'heure.
voilà, donc pour le SCO, il y a eu pas mal de départ, on l'a dit. À noter que les anciens, on va s'en souvenir un peu sur les anciens Angevins, notamment Romain Thomas qui a marqué ce week-end, et Vincent Manceau qui a été moins chanceux, enfin en tout cas, puisqu'il a marqué contre son camp, et un but assez spectaculaire, une espèce d'aile de pigeon qui lobe son propre gardien. Alors pour le coup, Guingamp a gagné match 6-3 contre. Oui, c'est bien du football, 6-3 contre Metz, mais bref. Voilà pour les anciens Angevins, en tout cas les actuels Angevins galèrent un peu. Mais voilà, ça repart sur le bon pied. Enfin, premier match de Ligue Magnus et première victoire pour les Ducs d'Angers qui sont allés s'imposer 3-1 à Gap. Un bon début pour les Angevins qui vont continuer la longue saison qui les attend à l'AS Park. Ce sera vendredi contre Rouen. Donc voilà, si vous voulez assister à un gros choc de hockey sur glace sur Angers, vous savez
déjà
quoi faire de votre vendredi soir. Quelqu'un va y aller autour de la table ou pas forcément? Non,
pas prévu dans l'immédiat.
Bon, bah,
on verra. Voilà. Si il y a toute la saison. Mais ça m'étonnerait.
Il y a toute la saison, de toute façon, pour aller voir les Ducs.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que même du côté des supporters aussi, ils étaient bien présents pour ce premier rendez-vous, même si c'était à distance. Notamment le Puck Angevin qui a commencé aussi sa saison.
On leur passe un coucou, effectivement. On n'hésitera pas à les inviter pour la suite de la saison. Pour la suite de la saison. On va passer à l'actu mondiale. On va parler un peu basket avec notamment Faustin. L'Eurobasket 2022, dont les Bleus ont bien failli sortir face à la Turquie en huitième de finale. Est-ce que tu as pu voir le match ou ça a été compliqué?
Non, je vais voir ce que c'est sur Canal. Et j'ai toujours pas de code Canal, malheureusement. Mais je suis le score en
demande
direct.
À CAD.
Ouais,
c'est ça.
Je l'appellerai.
J'avais jamais fait celle-là, tu vois.
Non, je crois que
elle vient d'où? Tu l'as trouvé où?
Je crois que j'ai entendu dans une pub. Sur une petite chaîne, Canal, un truc comme ça.
Ça m'étonnerait.
Mais du coup, t'as un peu quand même suivi?
Ouais, bah, je suis en direct.
Un résumé peut-être après?
Tout le quatrième quart-temps, j'actualise le score sur l'équipe. Et putain, qu'est-ce qu'on a eu peur, quoi.
Ah oui, pour avoir vu le match, ça a été très très compliqué.
C'est le troisième quart-temps qui nous a mis dedans. On prend 22-6 alors qu'on on gagnait. On a fait une bonne première mi-temps, mais je crois qu'il y a 21 pertes de balles. C'est
assez incroyable. C'est un peu malheureusement dans la continuité de cet Euro.
Ouais,
donc voilà, on peut en parler. Donc, du dernier dunk décisif de Rudy Gobert qui permet aux Bleus d'arracher la prolongation. Et puis après, enfin, c'était Tarpey qui a fait une belle interception à la fin pour permettre aux Bleus de l'emporter. Et c'était assez donc tendu, on le sait. Et donc voilà, il y a un quart de finale qui se profile malgré tout. Et face à l'Italie, comment tu penses que ça va se dessiner cette rencontre? En sachant que l'Italie a fait un bel exploit en battant la Serbie.
Ouais, c'était assez inattendu.
La Serbie de Jokic.
Ouais, exactement. Pas grand monde donnait très cher de leur peau à l'Italie. En match de prépa, on les a joués trois fois. On a fait deux victoires pour une défaite. Mais si on continue comme on joue depuis le début de 7 euros, ça va être compliqué. On doit retrouver un Evan Fournier, surtout, qui a loupé son match contre la Turquie, qui en a loupé d'autres dans les phases de poule. Mais faut aussi limiter ses pertes de balles qui sont le point noir de l'équipe de France depuis le début. Et il va falloir faire le taf des deux côtés, surveiller les lignes arrières italiennes qui shootent très bien à 3 points aussi.
Donc voilà, ce sera à demain à 17h15, donc voilà pour le match des Bleus. Peut-être, alors je sais pas, parce que souvent ils font ça en balle quand c'est crypté, les chaînes payantes. Souvent les fins de tournoi, c'est
une demi-finale, donc logiquement diffusée.
C'est le quart.
C'est quart.
Un quart.
Mais les demi, ouais, tu disais.
Demi et finale, généralement, c'est diffusé gratuitement.
Ok. Donc bah voilà, on suivra ça évidemment. Ce sera du coup la fin de semaine. Hein. Tout va se terminer donc fin de semaine. Du coup, on aura le temps de débriefer un petit peu tout ça. Et puis en tennis, l'US Open s'est terminé par les victoires des futurs cracks hein, du tennis mondial. Iga Swiatek a remporté son troisième Grand Chelem en carrière, tandis que Carlos Alcaraz a lui décroché son premier majeur à seulement 19 ans. Et par la même occasion, l'Espagnol, tombeur de Casper Ruud en finale, en a profité pour devenir le plus jeune numéro 1 mondial au classement ATP. Et chez les dames, on peut également souligner la performance de la Française Caroline Garcia qui s'est arrêtée en demi-finale contre la Tunisienne, 11 Jabeur 6-1, 6-3, ça a été assez expéditif, voilà, pour l'US Open. Caroline Garcia, c'est quand même une très bonne performance, hein, pour une Française.
Bah, ouais, pour une fois, on peut pas le nier.
On peut pas tirer sur les Français.
Là, c'est clair,
on adore ça, nous, ici à Gérard.
Bon, c'est dommage que ce soit un peu en fin de saison, mais bon.
Ça a manqué aussi de panache hein, sur sa demi-finale.
Ouais.
Franchement, bah, elle a, 11 Jabeur était très forte, mais elle a manqué de rébellion.
Après, voilà, bon, y avait quand même une bonne préparation avec des victoires en ATP 1000, enfin des choses comme ça, des tournois juste avant. Donc c'est vrai qu'elle est arrivée confiance. Pour une fois, voilà, ça a servi. Après, voilà, je pense que si on fera sûrement un bilan en fin de saison de. Enfin, la fin de saison est bientôt d'ailleurs pour tennis, mais il y a quelques Françaises et Françaises qui ont brillé, mais dans l'ensemble, je pense qu'on est comme sur la saison dernière, sur un niveau quand même assez bas.
Ouais.
Et ouais, du coup, c'est bien d'avoir une finale aussi un peu insolite chez les hommes.
Oui.
Qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Et un nouveau numéro mondial.
Ouais, et puis on se doutait qu'il avait les capacités d'aller chercher un grand chelem. Enfin, une victoire au moins déjà dans.
Il est monstrueux.
Et finalement, il gagne sur un terrain où on l'attendait plus sortir battu. Au final, il a été moins bon, et là, voilà, il s'est rattrapé. À voir ce que ça va donner la saison prochaine, mais en tout cas, ça promet sûrement des bons duels dès l'Open d'Australie, quoi.
Eh bien voilà, on suivra ça. Et puis la Française, peut-être qu'elle sera au Masters. Caroline Garcia, on verra ça.
Vu son classement, ouais, c'est fort possible.
On verra ça évidemment.
Elle remonte dans le top 10, je crois.
Ah oui, largement, je crois. Donc on verra ça pour la suite. On va parler un peu de football maintenant avec la Ligue 1, les principaux résultats de la 7e journée. L'Olympique Lyonnais s'est incliné à Monaco 2-1. Paris l'a emporté 1-0 contre Brest. Marseille a renversé Lille 2-1. Lens l'a emporté 1-0 contre 3. Lorient également, belle surprise de ce début de saison qui a gagné contre Nantes 3-2. Et puis la claque de ce week-end, c'est Rennes contre Auxerre, 5-0 pour les Bretons. Et puis ce soir, c'est de la Ligue des Champions, c'est voilà le retour. Va falloir s'habituer à voir de la Ligue des Champions pas mal de fois pendant ce début de saison. La Ligue des Champions donc ce soir avec Marseille qui reçoit Francfort. Alors dans le même temps, le Bayern affrontera le Barça dans le choc de cette deuxième journée de phase de poule. Et demain, donc, le PSG se déplace en Israël pour jouer le Maccabi Haïfa. Pour le match ce soir, Marseille-Francfort, Max, qu'est-ce que tu penses de ce match? Est-ce que Marseille peut enfin gagner en Ligue des Champions?
J'espère qu'il y aura autant de buts pour Marseille que de saluts nazis de la part des Allemands en tribune. Ça veut dire qu'on marquerait beaucoup de buts, parce que de source sûre, ça a déjà été effectué hein, en tribune allemande. Mais oui, Marseille va gagner, il n'y a pas de doute là-dessus.
Voilà. T'es confiant pour ton équipe?
Oui, il faut l'être. Puis
alors, je signale actuellement.
Vu les deux niveaux, les niveaux des deux équipes, avec un vélodrome à 80 000 personnes, il n'y aura pas de problème.
Je signale actuellement un envahissement de terrain dans le studio de Radio G, puisque.
Pourtant, Fadi... c'est pas des supporters allemands.
Non, c'est Fadi et Pierre Benoît qui nous font l'honneur de passer un coucou.
Donc, bah, allez, vous voulez pas parler du match de Marseille du coup ce soir, les gars?
Non, bah, non, je sais pas si. Ouais, vraiment, si tu peux parler dans le micro, c'est vraiment beaucoup mieux, quoi.
J'ai cru apercevoir qu'en fait, il y avait une crainte de rix entre supporters de.
Moi, oh, c'est déjà arrivé, mais oui.
Ok, c'est déjà arrivé.
T'es bien enseigné.
Parce qu'on a quand même le passif de la semaine dernière avec ce qui s'est passé à Nice.
Exactement.
On reste sur la Côte d'Azur et malheureusement, l'histoire pourrait se répéter.
Et on reste encore Merci. Avec des Allemands, c'est ça.
Bref, donc voilà pour votre intervention. Merci, messieurs, d'être de nous regarder. Voilà, pendant Génération Sport, c'est un peu perturbant, mais on va faire avec. Voilà pour toute l'actualité sportive de ce week-end. Est-ce que vous vouliez revenir sur un autre événement particulier? Il y a eu est-ce qu'il y a un Grand Prix, Cédric?
Ouais, il y avait un Grand Prix ce week-end. C'était le Grand Prix d'Italie, du coup.
À Monza,
sur la terre des tifosi, on avait une Ferrari qui partait en pôle. Et là, c'est comme d'hab, à la fin, c'est Verstappen qui gagne. La FIA et les polémiques, c'est une grande histoire d'amour. Ils en ont encore fait preuve ce week-end, puisque safety car sorti. Il reste 3 tours de course. À aucun moment ils ont eu l'idée de relancer la course, ne serait-ce que pour un tour. Donc du coup, Leclerc se fait un petit peu avoir, parce qu'il est forcément avec le safety car, il revenait. On aurait eu un départ, il y avait possibilité qu'il puisse le dépasser. Et hélas, non, ça s'est fini sous voiture de sécurité, avec une bronca de la part des tifosi. Enfin, c'est.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est la safety car qui a gagné le Grand Prix ou non?
Ah, on pourrait. C'est... Techniquement.
Elle a passé la ligne en premier.
Elle a passé la ligne en premier. Avec quoi que je suis même pas sûr qu'elle ait passé la ligne au final.
Bon, en tout
Mais
cas.
En
voilà.
tout cas, non, ouais. C'est...
Verstappen qui se dirige vers un second titre mondial, on peut le dire.
Dès le prochain Grand Prix, si Leclerc finit 8e et qu'il remporte le Grand Prix, c'est fini.
Ok, donc voilà.
Donc, voilà.
C'est plié.
Mais bon, je pense que d'ici là, on va avoir pas mal de polémiques. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans les règlements, notamment ces histoires de safety car en fin de Grand Prix. Est-ce qu'il fallait pas plutôt mettre un drapeau rouge comme ça s'est passé déjà dans le passé? Bon, c'est la polémique qu'il y avait eu, mais quelque part, ça laissait les chances sur 3 tours. Donc, à voir. En tout cas, on pensait qu'il allait faire un petit peu nettoyer. À leur porte, et en fait, il reste encore du travail.
Ok, donc voilà pour la Formule 1. Petit point, on revient sur Marseille. Au niveau de la composition, c'est du classique. Il y a quand même un trio intéressant devant, avec Payet, Gerson et Sanchez. Il y a deux Français qui sont titulaires chez Francfort, avec Ndika et Colomoni. Donc voilà.
Et Marseille qui a déjà obligation de gagner, quoi.
Évidemment, s'ils veulent se qualifier pour les 8e.
Ça a été un petit peu les vilains canards de cette première journée de Coupe d'Europe, puisque pour une fois les clubs français étaient quand même à la fête niveau résultat.
Donc voilà, on va passer maintenant à une pause musicale, et vous allez voir, elle est liée avec notre invité du jour, Yann, et voilà, on se retrouve juste après.
Quoi, t'as retrouvé ses enregistrements quand il est jeune et qu'il faisait partie d'un groupe de rock?
Non, bah, j'ai pas pu retrouver ça.
C'est une vraie info, ça?
Avec plaisir.
Ah, peut-être.
Bon, j'espère que c'est une vraie info.
On se retrouve juste après. De la musique et des parfums, des rimes font du bon latin, la caipirinha caillée, sur le trottoir l'été. De la folie jusqu'au matin, à la caipicaillé. Musique à bambo sur le bitume, regarde bien ce que l'on fume. La vie, la vraie, les moteurs, aïe, hombre, je suis ailleurs. Changer d'endroit, changer de tête, je vois du monde, je veux faire la fête. J'ai bien mon ticket pour ailleurs, un ticket pour la bonne humeur. Et comme ça, pourquoi pas danser? Et comme ça, pourquoi pas chanter? Jusqu'au matin, jusqu'à crier à la caipicaillé. La caipirinha caillé, rempli de sourires volés, de la musique et des parfums, des rythmes fous qui nous latin. La caipirinha caillé, sur le trottoir l'été, de la folie jusqu'au matin, à la caipicaillé. Yeah, 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 yeah.
l'autre côté. Je t'envoie un peu d'ailleurs, en décalage à la bonne heure. Si tu veux l'air le renouveler, si tu es là de l'autre côté, les nouvelles de la cahier sont bonnes, alors allons la chanter.
C'était Benjamin Pia et son titre La Caipirinha Calier. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment, à consommer avec modération. Donc voilà, on va Attends, pardon, c'est vrai que
personne pour accompagner.
Répète parce que j'ai pas ouvert.
Ah, t'avais pas ouvert.
Je suis désolé.
Oh là là là.
Je crois qu'il disait qu'il avait toujours cherché modération, il l'a jamais trouvé.
Ah, mais par contre, parcimonie.
Parcimonie,
okay. Je connais.
Il y a des très bons jeux mots qui sont faits à ma droite. Bref, donc d'ailleurs, Cédric, c'est toi qui va procéder à l'interview de Yann. Donc voilà, bah, je te laisse la main, hein. Voilà tout simplement.
Mais moi, je propose que limite, on le laisse faire et puis on part. Et puis on
il nous fait un exposé pendant.
Voilà,
pendant
exposé 20 minutes. Et on jugera. Nous,
t'as
on
prévu
mettra.
Ton PowerPoint.
Non, mais maintenant tout est en numérique.
Bah, PowerPoint, ah oui, c'est du numérique.
C'est du numérique.
Non. Ah bon, on est plus dans les années 80.
C'est,
hein.
C'est trop vieux, ça, PowerPoint.
Bref, donc vas-y, c'est vrai que. À toi l'honneur.
Oui, aujourd'hui, on va parler d'une chose qu'on parle peut-être pas assez souvent. En tout cas, tout ce qui est, on va dire, associatif et caritatif dans le milieu du sport. C'est vrai que, au final, t'as fait une super intro avec le Z-Event, hein, qui est à l'image de tous les éléments caritatifs, voilà, c'est avec qui a besoin d'exposition pour exister, et voilà, ce soir on va.
C'est là où il y avait la polémique, non, sur les tweets, non, il y a pas eu ça.
Oui,
il me semble. Oui.
J'ai un avis très arrêté là-dessus, donc.
On n'est pas là pour.
On va éviter d'en parler, hein, mais.
On va parler de ça maintenant.
Ouais. Enfin bon.
Non, mais il y avait surtout Michel Beaujolais.
C'est vrai. Ah oui.
Tu l'as vu, Michel.
Enfin, non, c'était pas lui, en fait.
Ouais,
il s'est fait enfermer dans les toilettes.
Et il l'a pas vu, mais qu'est-ce qu'il a bu?
Non, il a été réglo, comme d'habitude.
Non, je crois que c'est Cédric.
Oh.
Donc voilà, c'était la fin de l'interview.
Ouais.
Non, donc oui, du coup, on va parler d'une opération caritative. Mais pas que, comme ça a été présenté. Voilà, c'est aussi un défi personnel, familial, culturel.
Solidaire,
voilà, on pourrait mettre beaucoup d'adjectifs, puisque beaucoup de gens vont connaître le trophée 4L.
Oui.
Et là, celui-là est peut-être moins connu, du coup.
Alors, moi, je dirais qu'il est de plus en plus connu, justement, alors, grâce aux réseaux sociaux, notamment. C'est vrai que le 4L Trophy a été beaucoup plus médiatisé, et puis bon, c'était fait aussi par les étudiants, donc là, ça permettait aussi d'avoir un peu plus de public, et voilà, les jeunes sont un peu plus à même, je dirais, des réseaux sociaux, donc ça a été mis en avant beaucoup plus tôt. Là, sur ce rallye, ils sont rendus à la 8e édition, j'étais en train de prendre des notes tout à l'heure. 8e édition, ça commence à devenir de plus en plus connu, et d'ailleurs, on en avait reçu... un équipage il y a trois ans, je crois, je me souviens
de ça, effectivement.
Et donc, ce qui est d'ailleurs à l'origine de ce projet.
C'est ça qui t'a donné l'idée.
Alors, c'est pour résumer très rapidement le fait d'avoir justement cet équipage de venir dans l'émission de Radio G nous parler de leur retraite, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ça m'a donné l'idée justement de faire quelque chose pour les autres. C'est vrai qu'avec l'âge aidant, on voit un petit peu le passé et l'avenir, et on se dit que on aimerait bien aussi pouvoir faire des actions pour les autres au moins une fois dans sa vie, avant qu'on ne puisse pas, qu'on soit trop faible ou trop malade, voilà. Mm-hmm. Puis on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc ça m'a donné envie et puis je me suis fait avoir en fait, tout simplement. Ah. C'est que je suis parti sur une idée, sur un projet, en disant tiens j'aimerais bien faire quelque chose pour les autres. J'en ai parlé avec mon neveu, mais pour moi c'était juste une discussion de soirée familiale. Et puis bah un mois je crois ou deux mois après il est revenu me voir en disant bah au fait moi je suis motivé, quand est-ce qu'on y va?
Ah oui. Et
donc sur le coup je dis ouais mais il faut qu'on soit trois. Donc il a pris son téléphone, il a appelé la cousine qui a dit bah oui, et donc bah, je me suis retrouvé un petit peu embarqué dans cette aventure que je pensais être un projet, un rêve peut-être,
un projet de fin de soirée bien alcoolisé,
même pas
qui
alcoolisé,
se transforme en...
même pas.
Non, ça, et, c'est le scénario de Very Bad Trip.
Et du coup, on s'est lancé, mais il a fallu créer une association, puisque le Repred n'est ouvert qu'aux espins. Il faut créer une association pour pouvoir participer. Et donc, voilà, tous les soucis de quelle association créer. Et donc, on est une section d'une association déjà existante sur Saint-Martin-du-Fouilloux, qui est l'ASCSM. Donc l'association sportive culturelle de Saint-Martin-du-Fouilloux, et on a créé donc alors le nom, et comme ça je vais le dire parce que tout à l'heure en off Max me demandait mais comment ça se prononce, le nom c'est Un Pont de Maine.
Ok.
Voilà, et non pas One Point to Maine, non, comme on l'avait déjà dit.
Un pont de Maine.
Voilà, un pont, donc de Maine, un le chiffre, pont P-O-N, et deux le chiffre aussi, M-E-N.
M-E-N pour peut-être Ménard.
Pourquoi ce nom?
Pourquoi ce nom? Alors tout d'abord, puisque bah, dans l'équipe, on est trois, il y a deux personnes qui s'appellent Ménard, voilà, et une personne qui s'appelle Poncet, donc il bah, y a un pont et deux Maines.
Voilà.
Après, c'était un jeu de mots avec pour rappeler un petit peu les origines angevines. Ouais. Donc c'est un pont de Maine, un pont de la Maine. Et je trouvais que aussi la symbolique du pont était importante. C'est qu'on là dans l'idée de ce projet, c'est aussi de construire un pont pour aller vers d'autres personnes. Et notamment, l'idée, c'est aussi de faire beaucoup de rencontres durant ce voyage. Notamment entre les gens qui vont participer et puis bah, les gens vers lesquels on va aller. Puisqu'il y a un bivouac tous les soirs et voilà, on va rencontrer des populations locales et ça va être aussi une aventure humaine.
Parce que voilà, on va parler un peu chiffres. Donc c'est le premier raid aventure en Europe. Donc c'est 20 pays qui vont être traversés sur une distance de 10 000 km en 22 jours.
Oui, alors il y a un tout petit peu moins de 10 000 km pour l'édition 2023. 22 jours, c'est exact. 20 pays. Tu les veux, les 20?
On pourra en parler après.
Ouais, parce que je les ai.
Peut-être alors. Sur ceux qui vont plus t'intéresser ou tu penses que ça peut.
Parce que là, on a. Nous, enfin, ça, évidemment, c'est pas très radiophonique, mais nous, on a la carte sous les yeux, c'est assez impressionnant. Hein.
Alors, sachant que. Petit mea culpa de notre part, quand on a fait le dossier de sponsoring, on a utilisé une carte qui datait de l'édition 2019, qui part de La Roche-sur-Yon, et je vois en 2022 par exemple, ils sont partis de l'est de la France, je crois que c'était Reims, donc voilà, là, ça change un petit peu.
Ce sera, tu sais pas où ce sera?
Alors, on n'a pas encore l'itinéraire
c'est
exact,
mystère,
mais ça, voilà, il me semble que je me demande s'ils font pas une fois sur deux un départ de La Roche-sur-Yon.
Donc, en tout cas, ça va jusqu'en à plus à l'est, Bulgarie, Roumanie, quoi.
Alors le plus loin, et ça ne bouge pas quasiment pas. Le plus loin, ça va être Athènes, et après on remonte vers la Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Pologne, tout ça.
Oui, du coup, le plus à l'est, c'est ça, l'est. Effectivement, et au sud, effectivement, la Grèce.
Et le tout dans une voiture culte.
Voiture culte des années 80,
la 205.
Peu de gens autour de cette table ont pu connaître.
Je crois qu'on est au moins deux.
Au moins deux, voilà, la juste 205. Et c'est essentiellement, et c'est uniquement d'ailleurs, des 205 qui sont autorisés sur ce rallye. Donc c'est pour ça qu'il a fallu aussi trouver une voiture. Et ça, c'est pas évident, parce que soit on trouve des épaves, soit on trouve des voitures qui sont très chères.
Okay.
Et donc, on a réussi à trouver la voiture. Maintenant, il faut prévoir les réparations. Parce qu'il y a aussi alors, des réparations qui sont liées tout simplement au fait d'avoir un contrôle technique valable.
Logique.
Et puis, bah, il faut l'habiller aussi, parce que le but, c'est aussi d'avoir une voiture qui soit un peu décorée, que ce soit voilà, joyeux. Notamment, tous les ans, ils font un concours de la plus belle 205. Donc voilà, on va essayer de peaufiner un peu ça.
Bah, puis prévoir aussi les problèmes qu'il peut y avoir sur place. Parce que j'imagine que 10 000 bornes avec.
Et il y en a beaucoup.
Une 205, il doit y avoir des petits pépins.
Déjà, elle a au moins ça dans le moteur.
C'est ça. Au moins, ouais.
Et donc, le but dans ce chemin de projet, c'est qu'il y a une douzaine de réparations qui sont obligatoires, qui sont imposées par l'organisation de l'EuropRed, pour pouvoir participer, et avec une dizaine d'autres réparations qui sont conseillées par rapport à des pannes qu'il y a eu, j'irais, sur les éditions précédentes. Et donc là, c'est pareil, ça demande aussi de l'argent pour pouvoir faire ces réparations. Et c'est imposé. Donc de toute façon, on est obligé de le faire. Il y a un document qui doit être validé par un garagiste officiel.
Okay.
Et on a 1500 km entre la validation de ce document et le départ. Et on doit faire 1500 km avec la voiture.
D'accord, pour qu'elle soit rodée, quoi.
Voilà. Et il y a une vérification qui est drastique avant le départ. Notamment, je vois cette année, s'ils étaient 5 ou 6 véhicules, la veille, on leur a dit, bah voilà, vous avez jusqu'à demain 14h pour faire les réparations, sinon vous partez pas.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est... C'est quelque chose de sérieux au niveau de l'organisation, et voilà, ils veillent un peu à ce qu'on ne parte pas avec des, entre guillemets, des poubelles sur la route.
Oui. C'est quand ?
Alors, l'édition 2023, parce que c'est celle-là qu'on souhaite faire, ça sera du 29 juillet jusqu'au 19 août.
Ok.
Et ça sera la 8e édition.
Ok.
Puisque voilà, c'est un raid, mais pas au sens qu'on pourrait l'entendre un peu comme les rallye raids, voilà, style Dakar, ou c'est, voilà, c'est juste l'esprit raid.
Alors, c'est un raid, alors un peu comme le 4L Trophy, dans le sens où il n'y a pas de course, c'est pas une course où il faut arriver le premier. C'est vraiment un rallye solidaire, c'est-à-dire que si on est sur la route, en général, il y a 3-4 voitures qui suivent. Quand il y a une voiture qui tombe en panne, il y aura forcément une ou deux voitures minimum qui vont s'arrêter pour filer un coup de main, pour aider. Et vraiment, le but de ce rallye, c'est d'acheminer un minimum de 70 kilos de fournitures scolaires ou sportives, ou médicales d'ailleurs, et que ces équipements vont être après répartis dans plusieurs écoles de l'Europe de l'Est, des écoles défavorisées. Donc voilà, il y a un côté aussi humain qui entre en jeu, qui est, pour moi, qui était important.
On peut peut-être déjà commencer à faire une sorte d'appel à nos différents partenaires, des fois qu'ils écouteraient et s'ils voudraient rejoindre quelque part l'aventure. Voilà, ils peuvent te contacter via Facebook, Instagram et différents réseaux pour te proposer, par exemple, du matériel sportif ou...
Tout à fait. Alors, matériel sportif, il y en a déjà qui ont commencé un peu à nous contacter pour ça. Mais on est toujours en demande. On est aussi également en recherche de sponsors, puisque sur les voitures, elles vont être décorées avec le nom des sponsors qui nous aident. Donc, on a encore de la place. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes chef d'entreprise... si vous voulez avoir votre marque sur la 205, eh bien, il n'y a aucun souci. Vous nous contactez via les réseaux sociaux. Je pense qu'on fera un petit peu le partage de ça via votre page,
bien
pour
sûr.
Gagner du temps, que ce soit l'adresse mail de contact. Et on cherche donc des sponsors, et on a régulièrement des ventes qu'on fera également. Et puis on a également deux événements pour la fin octobre. Je ne sais pas si on en parlera à l'heure, peut-être.
Tu peux même en parler dès maintenant, si tu veux. Ça expliquera un peu pourquoi la pause musicale, entre
pourquoi
autres.
La pause musicale. Eh bien, c'est qu'on a deux événements qui seront faits donc au mois d'octobre, le 22 et 23 octobre. Un concert et un spectacle théâtral. Donc le concert, comme ça a été passé dans la pause musicale, c'est Benjamin Pia. Donc c'est une date qui est inclue dans sa tournée pour son quatrième album Eldorado. Donc il sera d'ailleurs avec son groupe le 22 octobre à partir de 20h30 salle Barbara à Saint-Martin-du-Fouilloux. Et les réservations sont déjà possibles via la plateforme Eloasso. Alors, je redonnerai un petit peu les informations de ça. Et puis le 23 octobre, ça sera l'après-midi à 15h, donc ouverture des portes à 14h30. Il y a un spectacle théâtral qui est un seul en scène, alors qui est assez, difficile à présenter en peu de temps. C'est Yvan Richard qui a créé ce spectacle, qui le met en scène au travers d'une vingtaine de personnages. Alors le titre, c'est Démocratie ou le triomphe de l'amour. C'est un spectacle qui va nous partir de la démocratie au sens politique, vers la démocratie au sens humain, au travers de personnages qui sont à la fois des personnages d'élus, des personnages de responsables associatifs, de voilà, c'est plein de personnages qui au final vont justement parler de la démocratie. Et alors là, c'est plus un ressenti personnel quand j'ai vu ce spectacle. Moi, je me suis reparti en me sentant concerné par ces personnages, par certains de ces personnages, et où on parle un petit peu de la relation à l'autre et de la relation à soi-même. Et notamment dans quand on est dans la relation à l'autre, est-ce que c'est vraiment important d'avoir raison et d'avoir le dessus quand on est sur de l'argumentation avec quelqu'un qui est pas d'accord avec vous. Et ça, c'est au travers de ces personnages, voilà, on apprend plein de choses et on apprend même sur soi. Donc c'est voilà le 22-23 octobre. Sur la plateforme Hello Asso, il y a également sur cette plateforme une cagnotte en ligne qui est mise en place. Donc voilà, vous pouvez à la fois réserver vos places pour venir. Les tarifs en plus sont abordables, donc c'est quelque chose d'assez bien. Notamment le concert pour un adulte, si vous réservez en ligne, c'est 12 euros. Donc c'est pour un concert de musique, je trouve que ça reste abordable pour un adulte. Et le lendemain, alors c'est un tarif ce qu'on appelle conscient, libre et conscient, et c'est avec un minimum de 8 euros pour un adulte.
Ok.
Voilà. D'autres questions, monsieur l'intervieweur?
Je sais pas, déjà on va voir si dans nos chroniqueurs il y a des questions par rapport à ce qui a été dit.
Il y a Max qui regarde Yann.
Alors en fait, je voulais te demander, est-ce que c'est à chaque édition le même objectif de l'Europe Red, ou alors cette année en particulier, c'est l'aide envers les pays d'Europe de l'Est qui a été mis en avant plus que les autres éditions?
Alors non, depuis les sept éditions passées, et c'est toujours en fait le même objectif. C'est toujours d'acheminer ce minimum justement de 70 kilos de fourniture, alors que ça soit sportif, médical. Je vois cette année, il y a une 205 qui a acheminé, il y avait un fauteuil roulant qu'ils ont amené. Et puis, alors, c'est vrai que beaucoup font sur du scolaire, donc que ce soit des feuilles, des crayons. Et c'est vraiment ce but a toujours été celui-là depuis la création.
Ok, mais visant les pays d'Europe de l'Est?
Alors c'est oui vers les pays d'Europe de l'Est. Alors l'Europe Red depuis a créé deux autres rallyes qui n'ont pas forcément. Alors là c'est plus sur le plaisir de rouler toujours en 205, notamment un qui se trouve. Alors, si je dis pas de bêtises, je me demande si c'est pas au Maroc, le Nomad Red et l'Alpina Red qui est en fait une traversée des Alpes. Okay. Aussi en 205, et c'est la deuxième édition cette année. Ils ont fait aussi en mobylette, et là c'est pareil, il faut c'est des mobylettes, un modèle ancien. C'était en fait ils ont fait le Tour de Corse, mais là c'est plus sur le côté j'irais plaisir de rouler.
Et on parle de pays d'Europe de l'Est, est-ce que tu sais actuellement vers quel pays ces fournitures iront?
Alors il n'y a pas de pays précis, okay. C'est vraiment réparti sur plusieurs pays de l'Europe de l'Est. Après, c'est voilà. Alors, je pense qu'ils sélectionnent des écoles qui sont, je pense, revues chaque année. Et c'est vraiment réparti sur plusieurs pays. Donc, quand on part, on ne sait pas à l'avance dans quelle école on va justement distribuer nos fonds.
Okay. C'est intéressant, ouais.
Voilà. Mais voilà, c'est solidaire. C'est j'ai même découvert en faisant la préparation de ce projet qu'il y avait aussi un côté écologique dans ce bah justement. Alors le fait de préparer les voitures avec des réparations, c'est pour éviter justement qu'elles soient polluantes au moment de faire la course. Il y a également l'éco-conduite. Alors maintenant, les plus jeunes, ils ont ça quand ils font le permis de conduire. La conduite, j'ai plus le nom exact,
mais éco-conduite, je crois que c'est ça.
Éco-conduite. Ouais. Donc ça, c'est mis en avant également sur le tri des déchets, parce que les bivouacs, tous les soirs, il y a un bivouac. Ils mettent l'accent aussi sur le tri des déchets au niveau du bivouac. C'est-à-dire quand on repart, je pense que c'est aussi nickel que quand on est arrivé. Ouais. Et ils ont calculé que donc ce tour, ce rallye pour le véhicule, ça s'était estimé à 1,79 tonnes de CO2 d'émis. Et c'est l'équivalent. Alors ils ont, je sais pas comment ils ont calculé, mais ils mettent que c'est l'équivalent en fait d'un voyage Paris Athènes aller-retour en avion pour une personne.
Ah oui, d'accord. Donc
là, c'est pour les trois personnes.
Vaut mieux y aller en voiture, du coup.
Et donc, en compensation, ils incitent chaque équipage. Alors, je sais pas dans quel ça, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard, mais ils incitent justement à la plantation de 3 arbres. Donc, est-ce qu'ils font ça durant un des bivouacs ou ça va être vu par la suite. Mm-hmm. Mais il y a vraiment une prise de conscience écologique dans la course.
Donc ouais, ce qui est plutôt cool. Comment toi t'appréhendes de faire quand même 20 jours tout seul, mais en tout cas voilà, c'est quand même une sacrée expérience à la fois humaine et à la fois éprouvante.
Oui, parce que je vieillis un peu.
Hein, mais c'est pas facile d'être toujours en train de conduire.
C'est aussi quelque chose entre guillemets à prendre en compte. Alors, je suis pas non plus grabataire, mais c'est vrai qu'en vieillissant, là c'est des bivouacs, hein, donc on dort dans ces toiles de tente, c'est par terre, c'est matelas. Donc c'est pas des choses où, parce qu'on à vieillir, on prend un petit peu ses habitudes, on aime bien un peu son confort. Donc c'est des choses qu'on prend aussi en compte. Et puis c'est quelque chose. Alors là, par contre, qui coûte un petit peu plus au niveau humain, c'est qu'on part quand même 20 jours.
Ouais.
C'est-à-dire que pendant 20 jours, on est éloigné de la famille aussi.
Bah, bien sûr.
Et donc je pense que et puis c'est une année où du coup c'est parce que je vais prendre sur mes congés pour pouvoir pour pouvoir partir, et donc ça veut dire que c'est des congés où je ne serai pas avec mon épouse et mon enfant. Oui. Ça va être un peu compliqué cette année, mais bon, c'est voilà, une fois dans une vie on fait des sacrifices.
Rassure-moi Yann, il n'y a pas que toi qui a le permis.
Non, et c'est une obligation de toute façon, les trois personnes doivent être en possession du permis de conduire. Ça fait partie aussi des choses qui sont, j'irais, vues la veille du départ, donc tout ce qui est vérification de papier au niveau de la voiture, donc carte grise, contrôle technique, et puis au niveau des permis, ils n'autorisent pas. Alors on pourrait se dire, tiens, moi j'aime bien rouler, on va partir à deux par exemple, et puis on va rouler un peu plus. Ils n'autorisent pas d'équipage incomplet. Donc c'est obligatoirement 3.
Pas 4, 3.
C'est 3, voilà.
C'est 3.
Et ça peut pas être en dessous, de toute façon. Okay. Et puis après, dans une 205, entre 3 personnes, leur bagage, le matériel, ça fait beaucoup.
Il
faut une bonne pression de pneus pour que ça tienne.
Après, pneus, on peut le dire, Yann, toi, t'es un vrai habitué de la route. Avec ta profession à côté.
Oui, mais
c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. En termes de taille, on passe d'un bus Irigo à petite.
Irigo d'ailleurs qui fait partie des sponsors qui vont nous aider également. Donc je trouve que ça permettait de. Alors, on en a plusieurs actuellement dans les sponsors. Malheureusement, je pourrais pas tous les citer. Mmh. Je vois le temps qui passe, mais. Et donc c'est pas la même chose dans le sens où c'est pareil, on a une centaine, si j'ai pas de bêtises, de kilomètres à faire voire plus dans la journée. Le soir, les bivouacs, alors faut s'imaginer que c'est pas forcément le bivouac où on arrive et puis on se met dans la toile de tente et on dort. Il y a aussi tout un côté humain où on va aller à rencontre des autres équipages. Donc forcément, les soirées, je pense, vont se finir très tard. La fatigue, c'est pour ça d'où l'intérêt d'être à 3, c'est que que celui qui est derrière il dort.
Et rouler sur une 205, mine de rien, Yann, bon, toi t'as connu comme moi, enfin voilà.
Je crois qu'on avait la même.
On a eu la même, ouais. À quelques années près, hein, j'aurais pu te la revendre. Hein.
Ouais.
Mais c'est, y a pas de direction assistée. Enfin, en termes de vitesse, ça se passe. Faut prendre un peu ses marques. Donc,
Y a pas de palette au volant.
Non. Il y a pas de turbo.
Ah, dommage.
Mais c'est, enfin, forcément, ça demande de se réhabituer. Voilà, une nouvelle façon de conduire. Bon, ça, c'est en termes de puissance, c'est des voitures qui sont faites pour tenir des distances comme ça. Mais c'est vrai que c'est toute une habitude et forcément, bah, les, sur les premiers kilomètres, la fatigue, voilà, ça va, il n'y aura pas trop de créneaux normalement à faire, mais bon, tout ce qui est un peu manœuvre, on le sent passer, quoi.
Alors, je conseille à tous les auditeurs de, justement, d'aller rechercher les, alors que ce soit les pages Instagram de l'Europe Raid ou le site internet, ils mettent des photos des saisons passées et il y a certains bivouacs où on voit les 250 ou 300 Peugeot, alors c'est pris avec un drone, qui sont garés, mais alors c'est au millimètre. C'est vraiment dans une quasiment une cour avec un stade à côté et on voit pareil les toiles de tente qui sont quasiment au centimètre près et donc je pense qu'il y a certains bivouacs où ça va être
cadré quoi,
cadré au millimètre près pour que tout le monde puisse rentrer.
Est-ce
que
tout ce qui est justement matériel d'hébergement c'est en plus de de ce que tu emmènes, donc c'est ton propre matériel ou c'est l'organisation qui fait quand même
Ah non, l'organisation te donne le lieu. Après tout ce qui est matériel, j'irais de tout ce qui est pour manger, c'est pris en compte aussi, mais tout ce qui est matériel de couchage, c'est à toi d'emmener. Donc ouais. La toile de tente, matelas, c'est vraiment aux participants de prévoir. Mais alors c'est pareil, il y a un bivouac chaque soir de prévu par l'organisation, donc c'est pris en compte dans l'inscription également, puisque voilà, c'est payant aussi pour les participants. Ça demande un budget qui est assez important. Alors sans partager dans les détails, mais faut compter à peu près 7000 euros de budget. Okay. Donc c'est quelque chose d'assez imposant. Mais chaque soir, voilà, on a un lieu de bivouac qui est défini. Et pareil, dans la journée, l'organisation vous donne un petit livret avec un itinéraire conseillé. Okay. Mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Vous pouvez dire, aujourd'hui, moi, je vais partir sur d'autres routes. Et souvent, ouais. Au fur et à mesure des jours, les équipages un petit peu se suivent à 2-3 voitures.
Okay.
Pareil, ils font. Il y a des visites de fait en même temps. Alors ça, c'est à titre perso et c'est chacun paye ses visites et tout ce qui est dans la journée, restauration dans la journée. Mais voilà, ils font des visites. Alors, notamment, il y a eu l'Acropole où ils ont fait un tour. Il y a eu et puis des activités sportives. Certains équipages cette année ont testé la plus grande tyrolienne d'Europe.
Ok.
Donc
voilà. Cool.
Et voilà, cherchez sur internet Europe Raid et les photos donnent vraiment envie de faire ce voyage.
Max, t'as une question. Ouais.
Je sais pas si on l'a évoqué. En tout cas, c'est une info qui m'a que soit j'ai pas entendu, soit que j'ai pas écouté. Et je m'en excuse d'avance. Est-ce que tu sais il y a combien de voitures participeront à cette édition?
Alors vu que ça commence tout juste au niveau de l'inscription, okay. Ça peut pas le savoir à l'avance.
Mais en général, de combien de voitures?
Alors, en général, il tourne entre 250 équipages.
Ok.
Des véhicules qui viennent de France, de Belgique, d'Espagne, certaines années même de Pologne. Là, j'ai regardé, alors j'ai pris en note, depuis le début, donc depuis 2014, avec la première édition, ils sont rendus à 800 voitures d'engagés dans l'Europe Raid. Okay. Donc 800 voitures, 3 personnes par voiture, je te laisse voitures. Faire le calcul.
Ah ouais, c'est...
C'est pas mal.
Hein, c'est pas mal, ça fait 2400 participants.
C'est énorme. Et du coup, il y avait une autre question que je me posais. C'est français? Je veux dire, tout le monde vient de France?
Ah non.
Je viendrai répondre à la question.
Pardon, j'étais un peu ailleurs.
Parce que durant les années, alors, la majorité viennent de France.
Ok.
Mais il y a eu des années où il y a eu des équipages qui venaient de Belgique, d'autres d'Espagne okay. Et apparemment de Pologne également.
Ok.
Bon, donc, c'est un voyage, je dirais, humain qui m'intéresse et j'espère le concrétiser. Et pour ça, j'invite tous les auditeurs à justement à réserver dès maintenant sur la plateforme Hello Asso. Alors, tout attaché, Hello, comme Hello, hein, H-E-2-L-O, Asso, A-2-S-O. Et vous tapez donc un pont de Maine. Alors, un pont, le 1, le chiffre, pont P-O-N, 2, le chiffre également, M-E-N, et A-S-C-S-M. Et là, vous allez voir les trois. Les trois projets qui sont mis en ligne, la cagnotte en ligne, le concert de Benjamin Pia et Démocratie ou le triomphe de l'amour d'Yvon Richard qui sera donc le dimanche.
Donc, tout ça c'est à Saint-Martin-du-Fouillure,
Salle Barbara.
Et surtout qu'on peut faire des dons aussi directement à l'asso.
Et on peut également faire des dons. Alors, ce qui est pas mal aussi avec cette plateforme-là, c'est vrai qu'on on pourrait en citer d'autres, parce que sinon on va être embêté par le CSA, mais Tipeee, que ça soit Litchi, que ça soit... certaines plateformes, en fait, prennent un pourcentage dans ce que les gens donnent pour pouvoir déjà eux vivre, ou alors il faut vraiment payer avec la cagnotte dans des boîtes, je dirais, partenaires de ces cagnottes en ligne. Et l'OASO a la particularité de redonner toute la somme et de redonner à la personne qui fait justement cette cagnotte. Donc tout ce que les gens vont donner sur l'OASO nous seront reversés au centime près. La seule condition pour pouvoir justement faire une cagnotte en ligne sur l'OASO ou des ventes de billets, c'est d'être justement une association. Donc on ne peut pas, à titre personnel, faire de cagnotte, mais tout est reversé au nom des associations, donc c'est pas mal.
Très bien, bien. Évidemment, on donnera toutes les infos sur nos réseaux sociaux de Génération Sport, pour que nos auditeurs puissent évidemment donc donner à un pont de Maine.
Voilà.
Et là, je trouve le logo très beau. Voilà, faut que je le dise.
Le logo qui a été dessiné par Benjamin Lisambard.
C'est ce que j'avais dit.
Qui a été fait. je crois que vous le connaissez un peu. C'est le même qui a fait le dernier logo justement pour l'émission.
Et puis ancien chroniqueur, alias le père Fouras.
Mais au-delà de donner justement des sous entre guillemets, moi ce que je vous invite aussi, c'est de venir au concert et puis au spectacle.
Donc 22 et 23 octobre, c'est ça.
22 octobre, 20h30, salle Barbara, Saint-Martin du Fouillou. Et le 23 octobre, donc c'est le spectacle d'Yvan Richard, donc c'est 14h30 ouverture des portes, 15h le spectacle, salle Barbara également à Saint-Martin.
Okay.
Et voilà, je vous invite à venir, je pense que vous regretterez pas votre achat.
Effectivement. 20h57, l'émission touche bientôt à sa fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Faustin. On te retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait.
Toujours présent.
Exactement.
Et on parlera sûrement effectivement d'Eurobasket. Cédric aussi présent la semaine prochaine, pas de problème.
Normalement non, pas de problème.
Max, je te pose pas la question. C'est ta dernière. Est-ce que tu veux donner un petit mot de la fin?
Oui. Voilà, c'était mon mot de la fin.
Faux, là.
Non,
je pensais que t'allais dire saucisse.
Cinq ans déjà.
C'est énorme.
Quel âge on a. Bon, je vous pose pas.
Non, on n'a pas.
C'est à ce niveau-là, c'est tabou.
Mais
il termine sur les chapeaux.
Voilà. Cinq ans à partager ces studios avec vous. Quoi de neuf dans le dojo?
Oui, c'était le début.
C'était le tout début. C'était notre intégration. On a été magnifiquement bien intégrés. On a pris petit à petit plus de place dans cet effectif. À un moment, Cédric est parti. Cédric est revenu. Après, Yann est parti. Yann n'est plus jamais revenu.
Il
part en Pologne. Bon, bref.
Voilà.
Et moi, je m'en vais. C'est bien. C'est bien. Il faut que ça change. Il faut que ça évolue. Sûr. Mais de toute façon, j'aurai toujours un œil sur l'émission, sur les nouveaux talents, si je puis dire, qui nous rejoignent. Et Faustin, j'espère, ne sera pas le seul. Donc voilà, plein de bonnes choses pour la suite.
Oui,
et puis je serai toujours là.
Tu seras notre insider, voilà.
Voilà, s'il y a besoin.
Tu vas être dans le pays de l'Ovalie.
Juste, je veux pas te mettre la pression, mais t'es quand même le premier à passer par Génération Sport et à partir justement. T'évader et donc t'as intérêt à faire un parcours exemplaire par la suite pour pouvoir justement dans les interviews dire je viens de Génération de Port.
Évidemment, donc, tu parleras de nous.
Évidemment.
Et puis comme ça on aura des places gratuites.
On vous laisse avec la suite des programmes, suite une rediffusion de l'émission Les Plantes Vagabondes et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.
Sur les ondes de radio.